Bonjour, c'est Aligre FM, La vie est un roman, Yves Tanret. Nous attendons Mathias Richard, un auteur que j'ai invité et qui a des problèmes de transport parce que nous sommes en France, donc il y a toujours des grèves et des choses de ce genre qui se passent. Et je suis avec Patrice Cazel, que je remercie d'être venu, qui est mon agent sur le champ de la poésie contemporaine, celle d'aujourd'hui, celle qui se pratique aujourd'hui. Salut Patrice, merci d'être venu. Et donc, ce jeune homme que j'ai invité, enfin qui a 40 ans quand même, a deux actualités éditoriales. Il a publié un recueil de manifestes qui s'appelle Patch 1.2, dans lequel figure 31 auteurs, et il est basé à Marseille. Et il a aussi publié un livre chez un éditeur qui s'appelle Tituli. Et son nom, c'est Mathias Richard. Son livre s'appelle Syntex. Donc, chez Tituli Éditions, ça vient de sortir. Nous avons eu la chance de le voir faire une performance vendredi soir chez son éditeur. Et donc, le noyau central de Patch 1.2, donc le recueil qui comprend 31 auteurs, est le mutantisme. Et Patrice a sélectionné un texte qui explique. Il y a un certain nombre de définitions. Quand Mathias sera là, il nous dira combien. Dans le livre, chacun a donné sa définition du mutantisme. Mais là, nous avons un texte qui s'appelle Terreau et que je vais vous lire. Comme ça, vous aurez une vision un peu globale de ce qu'est le mutantisme. Le mutantisme est une tentative de réflexion, une position mentale cherchant à reconsidérer chaque chose en la dépouillant le plus possible des couches de sens qui lui sont collées dessus. Histoire, idéologie, éducation, que cela soit dans la littérature, dans l'art, dans la société, dans la pensée. Ne jamais prendre une chose comme acquise, normale, mais questionner sa pertinence et réfléchir à une réorganisation possible si cela semble juste et à sa permanence, son maintien, si cela semble juste également. Cette réflexion est nécessaire, que ce soit le mutantisme ou autre chose, qui la même, priorité, établir, utopie et système opératoire hors de ceux déjà testés, créer un terreau pour le futur. Nous vivons une apocalypse silencieuse, froide, la fin d'un monde à intérieur de tous les humains, une réinitialisation. Au sens figuré, ce monde réinitialisé est un espace lisse, lissé, vide, mais nous pouvons y faire naître des plis, y faire pousser des reconfigurations. Dans une société au nihilisme faible, sans perspective et sans joie, il faut jeter des bases pour des manières de créer et de se regrouper qui correspondent à notre temps et à ce qui nous manque. Des manières de faire qui accentuent les rêves, la liberté, la rencontre, l'accomplissement, la création. Établir clairement et sur le long terme qu'il faut créer ou favoriser de nouveaux modes de pensée, d'utopie et d'organisation. Le mutantisme, agréable d'abord poétique, ne prétend pas faire tout cela comme ça d'un coup, mais il commence par établir un bilan, les manques, les objectifs. Réorganise la pensée, le langage, les catégories. Pendant que d'autres continuent à faire la même chose et encore la même chose, ne réalisant pas qu'ils font partie d'une désagrégation générale tranquille et bien avancée. Le mutantisme sait qu'il part de rien, mais que son existence est un terreau nécessaire pour d'autres choses aujourd'hui inimaginables. Utopie, mouvement, forme artistique et politique, métaphysique, pour que ces choses aujourd'hui inimaginables puissent venir au jour. Il ne s'agit pas d'être dans la protestation, la réactivité au coup par coup, la résistance, c'est fou ce qu'il y a comme résistant en France, le coup de gueule du jour. Il y a une sorte de confort bougon et franchouillard dans les déclarations uniquement protestataires. L'objectif honteux infantile de beaucoup de manifestations n'est pas de vaincre les forces de l'ordre, mais de se faire vaincre par celles-ci pour pouvoir se plaindre après. une rhétorique permanente de la résistance, qui est un mot trop utilisé, trop employé, dévoyé, et qui finalement semble assez négatif dans un pays où la résistance ne fut pas si répandue que cela quand cela a réellement compté et demandé du courage. Le mot, la position et la métaphore de l'attaque sont préférables à celle de la résistance. Caméra Animal eut d'abord comme premier slogan « édition d'attaque ». Si l'on résiste uniquement, on ne va nulle part. Il faut créer en art, en pensée, en acte, selon les vocations. Il faut créer autre chose, quelque chose. Il n'y a pas d'autre solution. Et si je ne bouge pas, je recule. Chante de Jungotz dans La fille et la mort. Il faut établir un bilan complet de nos systèmes, puis enclencher les procédures d'attaque, la mise à jour. Mathias est arrivé maintenant. Bonjour Mathias.
Alors, bonjour.
Je te dis ce qu'on a fait jusqu'à présent. J'ai présenté tes deux publications et je viens de lire Terreau, qui est dans ton recueil Patch 1.2. Et je viens de finir donc de lire le texte. Et je vais te donner la parole si tu es prêt. Et explique-nous donc ce qu'est ce recueil Patch 1.2 et le militantisme.
Bonjour. Alors, c'est à la fois mon recueil et c'est un recueil collectif qui réunit 31 personnes, dont d'ailleurs Patrice Cazel, ici présent. Donc 1.2, ça veut dire que c'est la suite de 1. et 1.0. 1.0 est sorti sur Internet en 2009-2010. 1.1 est sorti en livre en 2011. Et donc 1.2 est sorti cette année, en février. Et ces numéros sont une sorte de jeu avec le langage informatique. Donc des livres comme des manuels informatiques ou des manuels d'utilisation d'outils. Et par où commencer ? C'est toute une longue histoire, ça a commencé en 2007.
On t'écoute. Respire profondément, tout va bien.
Je viens de courir un peu.
Oui. Mathias est un peu épuisé là, mais il va se remettre. Oui, la question un petit peu de l'historique aussi de la maison d'édition qui s'appelle Caméras Animal. D'où vient ce terme, Caméra Animal ? Parce qu'il m'a semblé en lisant tes différents recueils que c'était important cette notion d'animal à caméra ou de caméra animal.
C'est une forme d'oxymore. Alors ça vient de mon frère François Richard, qui est poète et qui écrivait frénétiquement tout le temps, des dizaines et des centaines de pages, même dans la rue à tout moment, sans début et sans fin. Et on a créé la maison ensemble. Et quand il s'agissait de trouver un nom, au début, ça a failli être anaérobiose, qui signifie vie sans oxygène. Et je suis tombé sur cette expression parmi ses textes qu'il avait complètement oublié. Et moi, ça a fait tilt. Et donc, ça, comme souvent, ça a d'abord été quelque chose d'instinctif, qui ensuite a été théorisé, mais je fais d'abord confiance à l'instinct. Et effectivement, c'est une façon de réunir les contraires. Ça, c'est un vieux truc de la poésie, d'ailleurs. Le langage ne peut pas exprimer les choses précisément. Il faut donc créer des expressions spéciales. Et caméra et animal, ça, d'un côté, la technologie, la culture. De l'autre, l'animalité, la nature. Et c'est évident qu'il ne faudrait pas que les deux soient opposés, ce qui a tendance à être le cas aujourd'hui, entre des gens qui seraient plutôt pour une sorte de primitivisme et d'autres pour, on va dire, une sorte de technophilie.
Absolue.
Voilà. Et ces deux pôles seraient censés s'opposer, alors que, évidemment, non. Les deux extrêmes se rejoignent. L'extrême animalité, l'extrême technologie se rejoignent. Nous sommes des animaux, nous sommes des formes de machines. Et c'était aussi le fantasme, il y a beaucoup de sens en tout cette expression, le fantasme de restituer ses perceptions, que l'écrivain, le poète, tente de être une caméra animale, c'est-à-dire tente de rendre les perceptions qui l'assaillent, le débordent.
C'est ça.
Comme des boîtes noires.
Et ça apparaît très bien dans ce qui est développé dans le patch et dans le patch 1.2 là et les précédents. Oui, cette notion de perception. Pour essayer de faire simple en fin de compte pour présenter le mutantisme, c'est pas du tout évident. Parce que c'est une sorte de galaxie à elle toute seule, c'est-à-dire il y a énormément de choses dans le mutantisme. C'est d'abord un livre, comme tu l'as présenté tout à l'heure, un livre qui est fait, comme je dirais, de manière un petit peu comme un mode d'emploi de Windows, c'est-à-dire c'est un livre qui se laisse découvrir. Au début, c'est assez surprenant. Il y a des illustrations dedans. Ça ressemble à une sorte d'édition qui peut paraître expérimentale. Et puis on se lance dedans. Alors Yves tout à l'heure a lu le texte Terreau qui présente quand même une certaine définition de l'approche mutantiste. Moi j'en avais un petit peu pas une autre, mais j'ai essayé un petit peu de faire la synthèse de tout ce qu'on se trouve dans le mutantisme et des filiations, des différentes filiations qu'il peut y avoir. Moi, j'aurais dit, par exemple, si tu permets un petit peu, Mathias, que je fasse une analyse de ce livre un peu rapide, c'est un petit peu une sorte de manifeste comportemental et poétique, hein, c'est-à-dire à l'usage de chacun. C'est-à-dire chacun entre un petit peu comme il veut dans ce livre. Il peut y entrer également au hasard. Il est fait en chapitres, et chapitres que tu appelles, ou que vous appelez, des machines. Cette notion de machine est importante. Une machine, pour toi, si j'ai bien compris, c'est une forme de protocole d'écriture. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer cette notion de machine ? Parce que chaque chapitre, en fait, est une machine. Donc, comment est-ce que tu vois ça ? Et comment est-ce qu'on pratique ces machines ? Parce que l'important, à mon avis, c'est-à-dire, ce livre est une forme de passage. C'est-à-dire, tu donnes les moyens à des gens qui écrivent ou pas, ou des gens qui ressentent, des gens qui voient, des moyens d'exploiter la réalité sensible autrement. Autrement, avec cette notion de machine, qui est aussi une machine textuelle. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça ?
Alors, mutantisme, en fait, c'est une forme de logiciel psychique. Ça joue toujours sur ce côté-là. Nous sommes des réplicants, c'est-à-dire des humains découvrant qu'ils sont des robots. Et donc, nous développons des systèmes pour échapper à nos déterminismes. Et entre autres, nous créons donc un vocabulaire très spécifique. Il s'agit de créer un autre langage pour penser différemment. Donc, les machines, ça fait partie de ça. Pour être précis, il y a les modules qui sont des concepts, les machines qui sont des protocoles, et il y a aussi le plugin, les mutastases. Alors pour te répondre sur les machines, qui est quand même un aspect très important, disons qu'un des aspects du mutantisme qui part du principe que tous les genres existants ne sont plus valides, les genres artistiques, littéraires, et qu'il s'agit d'un champ complètement à réinitialiser. Et donc, on propose de tout recréer sous forme de machine. Alors, c'est pas machine dans le sens d'une machine à café ou de la machine pour réparer sa voiture. C'est une machine abstraite. Abstraite, c'est-à-dire un protocole, un agencement. J'aime pas trop faire des références puisque j'en ai tellement que finalement, en dire une, ça absorbe le reste, mais ce terme de machine abstraite vient entre autres, bien sûr de Deleuze, mais aussi d'un auteur plus récent qui s'appelle Mackenzie Wark, qui a écrit Manifeste Hacker. Et donc, cette notion d'abstraction m'a frappé. Donc, il s'agit de... Chaque personne peut créer des machines. Il s'agit de protocoles qui visent à créer des actions, des comportements ou des créations. Alors, ça prend la forme d'un texte ou d'un schéma. Et La plupart des machines visent à un résultat dans le monde réel. Il peut aussi avoir des machines imaginaires ou impossibles à faire. Et il y a aussi un intérêt de l'écriture de la machine en elle-même, une sorte de machinographie. Mm-hmm. C'est, alors, peut-être le plus simple, c'est d'en citer quelques-unes. Je ne sais pas.
Oui, ben, j'étais parti pour ça pendant que tu en parlais, mais en fait, c'est très clair quand tu en parles. T'as bien fait de venir, parce que j'aurais eu du mal.
Il y a des machines qui sont extrêmement compliquées, d'autres très simples. Mm-hmm. Par exemple, Zénoscope. Munissez-vous d'un mètre, placez-vous face au mur, mesurez la distance qui vous sépare de ce dernier, divisez-la par deux et avancez jusqu'à ce nouveau point. Recommencez l'opération jusqu'à la fin des temps. Voilà, ça c'est une micro-machine comportementale.
Oui.
Une autre, après je te laisse, parce que je vois que tu es dans les starting blocks. Le nouveau néisme. Voir tout comme un début, un commencement. Décider de voir les gens comme si on les voyait pour la première fois. Aborder chaque chose comme si on ne l'avait jamais vue. Aborder chaque personne et chaque chose comme si on ne la connaissait pas. Bon, là, je fais vraiment des machines qui sont toutes minuscules.
Ouais. Mmh.
Il y en a des beaucoup plus complexes, comme le Syntex, par exemple. On en parlera.
On parlera du Syntex tout à l'heure, parce qu'en fait, le Syntex fait référence également à ton dernier livre, là, qui s'appelle Syntex, dont il va parler tout à l'heure. Moi, j'ai une machine, la machine NA-3, topologie lacrymale. Cartosociographie poétique. Emprunter les transports en commun. Les transports en commun ferrés d'une grande ville. Sillonner quartier et banlieue en notant et dénombrant à chaque station les personnes qui pleurent sur le quai. Établir ainsi une topologie des larmes, la superposer au plan des lignes du réseau ferré, en extraire une cartographie de la tristesse, un dynamisme du chagrin rythmé et canalisé par les mouvements pendulaires. J'adore ce genre de choses. Et tu parlais tout à l'heure, je te redonne la parole après, Mathias, c'est surtout toi qu'on va entendre aujourd'hui. Tu parlais que tu hésitais à parler des références. Les références, tu sais, moi, je les ai vues.
Les références existent. Délimitent, emprisonnent la réception.
Oui, cependant, quand on lit, quand on dit du dehors, comme moi, quand on entre dans le mutantiste, on ne peut pas s'empêcher de voir des filiations dans tout ce travail. Bon, moi, je sais qu'en tant que tel, je veux dire, c'est légitime.
Il y en a, évidemment, énormément. Mais j'aime pas trop les travaux qui passent leur temps pour se légitimer. Ça existe quand même pas mal. Chaque page, tu as au moins 10 références. On a l'impression que les gens seraient très inquiets s'il fallait pas que ça se réfère à toutes sortes de choses.
Oui, tu essayes de garder une certaine fraîcheur. On est bien d'accord là-dessus. On va écouter un petit morceau de musique. Je vais revenir après. On est sur Allegre FM dans La vie est un roman. Merci Gabriel. C'est Gabriel Ribeiro qui est derrière la vie. Merci de nous passer un petit morceau de musique.
Away.
Bon, voilà, c'était Run, Rabbit, Run. Parce que chez ces jeunes gens, je sens quelque chose comme dans les yeux d'un lièvre pris dans les phares d'une voiture. Par exemple, sur la page qui accompagne et qui présente page 01, nous lisons « Nous refusons le temps, l'espace et les langages officiels. Il faut permettre à d'autres mondes d'exister, avancer même quand il n'y a plus de lumière, créer des portes dans les murs, une explosion silencieuse, une poésie se cachant partout. Viser à la constitution d'un monde d'idiots chaque jour un peu plus mutant au gré de leurs expérimentations transformantes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup cette image des lapins pris dans les phares d'une voiture. Et donc, Mathias se définit aussi comme un performeur. Mathias Richard, qui vient de sortir un livre chez Tituli Édition Syntex, et qui est là pour nous présenter Patch 1.2. Donc, pas de référence, c'est bien. On refonte le monde à zéro. À toi, Patrice.
Mais si j'ai plus de référence, moi je ne peux plus rien dire. Je
ne
suis pas légitime, tu comprends.
Et là, tu avais sélectionné une page qui est pas mal, la Manuel de survie pour un futur amplifié, manifeste comportemental et poétique, un livre à l'usage de chacun qui décline comme il l'entend.
Voilà. Oui. Donc, c'est un petit peu les réflexions que j'ai eues sur le marxisme.
Le mutantisme.
Le mutantisme. Non, mais je vois que c'est écrit marxisme dessus. Bah, tu vois, ça faisait partie des références. Donc, on oublie. Là, vous n'avez pas entendu. On continue sans ça. Donc, ce sont des écritures. C'est une génération quand même, pour moi qui suis que la génération d'après, j'ai remarqué que les écrivains, en gros, sont d'une génération très influencée par tout ce qui est technologique. Les réseaux sociaux, le SMS, tout l'aspect Internet, ça agit à travers l'écriture. Je ne pourrais pas expliquer comment, mais c'est une écriture de ce point de vue-là qui est très organisée dans ce sens-là.
Tu veux dire qu'il y a un flux, que c'est une écriture du flux plutôt ? Ça recouperait mon idée de lumière de phare dans les yeux. Le flash, le stroboscope, les rêves, la techno, une espèce
voilà.
de...
C'est ça. Par exemple, je voudrais lire un texte de... Je l'avais mis de côté, là. Comment s'appelle-t-il ? J'ai mes marques, là. Mais...
Bon, pendant...
Oula, oui, vas-y.
Pendant que tu cherches, donc tu te définis plutôt comme un performeur, Mathias ? C'est important pour toi, cet aspect-là
Actuellement, oui, j'ai du mal à me définir en général, mais...
Moi, je ne cherche pas à te...
Fais beaucoup de... écrivain, poète, performeur, chanteur. Ça varie selon... les gens qui me connaissent selon l'angle. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de performances, de poésie-performance. Et pour reprendre pour Internet, en fait, c'est pas, même s'il se trouve qu'effectivement il y a beaucoup de gens d'une certaine génération, c'est pas le but. Hein. Il peut y avoir des gens de tous les âges et qui sont pas forcément des geeks fondus d'Internet. Mais c'est vrai que l'environnement techno-scientifique, donc l'environnement informatique, l'environnement web, est très très important pour cette création et pas forcément uniquement dans l'enthousiasme, c'est aussi parfois on s'est enfermé là-dedans, on a envie de l'exploser. Il y a le côté grappe de cerveau, c'est-à-dire que certaines créations se créent sur Internet et puis se chevauchent et on entraîne d'autres.
Grappe de cerveau.
Ouais, c'est bien. Mais cette remarque est une remarque, c'est une espèce de mise à distance, de faire le point comme quand on règle une focale, si tu veux. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'on est dans le flux. Tout le monde est connecté et cette connexion nous influe sur nos vies et donc sur notre style. Je ne sais pas, je ne connais pas les autres, et toi je viens de te découvrir, mais l'ensemble des participants a très certainement l'habitude d'envoyer et recevoir des messages courts, rapides, des espèces de flash qui font chla, 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 et ça va se retrouver dans ton écriture sans que ça soit ni bien ni mal. Après, il doit sûrement y avoir des qualités très différentes dans ces émissions courtes.
Ben là, ça nous amènerait à parler de Syntex qui, effectivement, procède par flash par rapport à l'afflux d'informations qui nous déborde et comment le filtrer et en tirer un matériau.
Je pourrais lire une page de Syntex vite fait pour donner une idée de ton style. Au bout d'un moment, vouloir se retrouver, se ressourcer est dangereux, car alors on risque de s'apercevoir qu'il ne reste plus rien de soi et qu'il n'est plus possible de se retrouver, de retrouver quoi que ce soit. Il n'y a plus personne ni quoi que ce soit à retrouver. Le troublant par lequel toute matière avalée finit par réagir. J'aime lire les notices, mais je ne les suis pas. Le monde ressemble à ce qu'il était il y a 10 ans, mais sur la surface, c'est devenu très étrange. 72 heures de vidéos sont chargées chaque minute sur YouTube. Tous les vagins sont connectés. Le sacré est transféré à la technique. Attentats préprogrammés. Les enfants portent des dosimètres de radioactivité. Merci de me prévenir, moi, si jamais. Les WC sont enfin reconnus par la loi. Ouf, je peux me détruire sur simple demande. Record du monde de la distance, nager, pieds et poings liés. Ablation chirurgicale de la sympathie. Mort écrasée par un menhir au parc Astérix. Jouer avec un Rubik's Cube qui se défend. On respire 15 000 litres d'air par jour. Discipline olympique, combat d'escrime au Godemiché. Le sucre et drogue interdites. Nos cerveaux traits. Le son plus vite que l'image. Mais la lumière se déplace plus vite que le son. Tu suis ? Recherche jeune et jolie femme souffrant de psoriasis. Les surmourants meurent même après leur mort. Il vécut dans un mètre carré pendant 15 ans. Le cercueil dans lequel il est enterré est plus grand. Je me suis fait exclure des soirées Michel Thor. Il faut changer de vie, encore. Dans le corps, on a plus de microbes qu'on a de cellules. Nouvelle arme de destruction massive, le canon à induction bordélique plonge les foules ciblées dans une frénésie sexuelle irrépressible. Vos désirs sont des zombies, des orgasmes humides comme des serpents me donnent envie de dégueuler. Le film n'en est qu'à un tiers de sa durée, la salle s'est à moitié vidée et je souris à cette simple idée. Voilà une page de synthèse de Mathias Richard. Donc effectivement, c'est un flux, c'est pas le lien entre les choses qui comptent, mais enfin je ne sais pas. À toi de nous parler de tout ça.
D'abord, il y a la question des sources, des phrases qui sont de toutes sources, de moi, mais aussi de ce qu'on me dit, de ce que je lis, de ce que je vois dans les films et les séries, les discussions sur Internet. Tout ça, ça crée un énorme fichier que j'ai chez moi qui fait des dizaines de milliers de pages. Et pour faire un syntexte, je compresse tout ça, je supprime un maximum, je me mets une musique très violente. Et tout d'un coup, je fais des liens entre toutes ces phrases. Donc la question du lien, justement, elles sont à la fois toutes différentes. Et en même temps, j'essaie de les agencer d'une manière où, selon chaque agencement, ça crée des liens différents. Voilà. Mais j'ai surtout envie que ça impacte. Et... comme si on avait très très peu de temps. Enfin, le syntaxe, ça vient de cette idée aussi que le nombre d'œuvres sur Terre ne fait qu'augmenter, que l'éducation sur Terre également, que donc le nombre d'œuvres qu'il faut connaître, entre guillemets, ou intéressantes, ne cesse d'augmenter, que c'est impossible d'avoir une vision d'ensemble, et qu'il faut donc créer une forme nouvelle extrêmement courte, qui soit un concentré de données, d'informations.
D'informations brutes, sans densité, je veux dire, sans forcément de profondeur, c'est-à-dire d'analyse, de pensée derrière, c'est-à-dire des... Oui ? Non ?
Je dirais qu'il y a de la pensée derrière, parce que pour créer ce discours, il faut faire beaucoup de choix, en fait.
Tu parles d'œuvre, est-ce que ce n'est pas plutôt le flux qui compte plutôt que de... Parce que l'œuvre, c'est un monument, en fait, si tu veux, c'est quelque chose de sacral. L'idée de l'œuvre, c'est l'Académie française, on décide que cette chose-là est supérieure à ses voisines, et là, à partir du moment où il y a flux, plus rien n'a de valeur supérieure à ce qui joue. Ce qui compte, c'est le mouvement. Est-ce que ce n'est pas ton sentiment ?
Je suis un peu pris au piège, parce que quand même, la création d'un syntexte, à un moment, s'arrête. Après, c'est vrai que j'arrête jamais de les refaire. Quand je fais des lectures, je suis toujours en train de les rebricoler, de les remettre dans un autre ordre, etc. Donc je suis quand même tenté aussi par le fait de créer des formes qui à un moment soient, je ne sais pas si on peut dire des œuvres, mais des formes un peu finies.
Oui, arrêtées.
Mais finalement, je me trompe moi-même puisque je suis tout le temps dans une refabrication de ça.
Oui, ça tient également au mode de construction du syntaxe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut ne pas s'arrêter. Et pourquoi pas ? Je veux dire, bon, une œuvre soit finie ou pas, bon, moi, personnellement, je ne crois pas tellement maintenant aux œuvres en tant que telles, enfin, écrites, qui se finissent. Ça peut être amplifié, ça peut être augmenté, ça peut être retravaillé. en tant que telle, la notion d'œuvre finie, bon, c'est pas... C'est
sur Internet, on peut toujours les remodifier, de toute façon.
Ouais. Mm-hmm. C'est un petit peu... oui, il y a quelque chose qui m'apparaît important dans le Saint-Texte. Là, ça pourrait paraître comme une écriture, ce qu'on appelle des écritures de laboratoire, mais en fin de compte, pas du tout. Parce que les écritures de laboratoire, ce que j'appelle des fois un petit peu de la branlette textuelle, je veux dire, il y en a énormément. Là, on n'est pas. Il y a une ambition qui va bien au-delà, c'est-à-dire à travers cette écriture, à travers ces flux d'informations qui arrivent, qui sont un petit peu concaténé, il y a une vraie perception de la réalité et du monde dans lequel on vit. C'est ça, moi, qui me touche dans ce travail-là.
Quelque part, j'essaye de faire passer une vision tout en me servant de tous les discours du monde. Et c'est le début du livre part dans tous les sens, mais ce n'était pas totalement volontaire. Mais à force, effectivement, mon filtre fait qu'il y a une sorte de discours étrange qui se crée à travers tout ça.
Oui, absolument.
Et puis,
il y
a aussi des buts d'impact, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire de vraiment que, si possible, chaque phrase essaye de traverser le cerveau, de créer un circuit électrique dans le cerveau, un étonnement ou quelque chose. Les premiers, enfin, c'était beaucoup sur Internet, où il fallait juste que sur une page, on est dans un tel truc que soit les gens zappent tout de suite, soit il faut que ça tac. Donc, chaque syntaxe faisait juste une page et il fallait que ça tape au maximum.
Mais qu'est-ce que c'est impacté pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire impacté? Je voudrais que tu dis, je veux que ça impacte. Qu'est-ce que tu mets dans ce verbe?
Que la phrase crée un chemin dans le cerveau de l'autre. Donc c'est évidemment, ça change. J'essaye d'imaginer, je suis mon propre cobaye, si tu veux. Un chemin étonnant, inédit, frappant. Que d'une manière ou d'une autre, ça soit quelque chose qui interroge ou qui étonne ou qui frappe.
Donc voilà. On pourrait dire que tu vis à la communication, en fait. Il y a des moyens de communication extrêmement puissants et très fluides qui créent une espèce de bourdonnement perpétuel. Et est-ce que tu t'es inscrit dans ce bourdonnement? Est-ce que c'est un flux? Est-ce que c'est de la musique? Ou est-ce que c'est un arrêt de ce flux?
C'est vrai qu'il y a le désir quand même de traverser cette immense... on a l'impression d'être dans un immense brouillage. Et tout d'un coup, j'aimerais que dans ce brouillage, tout d'un coup, on entende cette voix qui te parle et qui vraiment te tape dans la tête et qui te dit des choses assez nettes, finalement. Donc, ça émerge du flux, mais ça voudrait en faire quelque chose qui en sorte et qui...
Est-ce que ça participe du flux ou est-ce que ça fige?
Peut-être ça le fige.
Tu veux faire œuvre.
Je me dis pas les choses comme ça, honnêtement. Mais je me pose les questions en termes de vie, de communication. Ça, c'est quelque chose vraiment qui, si on veut parler de référence, bataille a beaucoup compté pour moi. Cette notion de communication. Nous sommes des êtres différenciés. Qui souffrons de notre différenciation et nous cherchons des états indifférenciés temporaires à travers la fête, l'alcool, la poésie, le sexe, etc. Donc effectivement, moi je pense que je souffre de cette différenciation et je veux absolument communiquer avec mes frères humains d'une manière ou d'une autre et d'une manière qui soit différente de ce qu'on appelle la communication aujourd'hui, enfin... C'est comme si t'écoutais France Info, que tout d'un coup, une voix commençait à traverser sous la voix du présentateur de France Info et te dire des trucs complètement fous sur la réalité.
C'est bien l'exemple de France Info, parce que, ou par exemple, les actualités à la télé, ça fait très longtemps que je n'ai plus regardé la télé, mais c'est tout le temps la même chose, hein, c'est le retour du même. Mais en même temps, dans ce retour du même, il y a effectivement de la musique. Il y a une musique, il y a un flux. Et après, on peut vouloir s'inscrire dans ce flux ou effectivement s'inscrire contre ce flux. C'est deux choses totalement différentes. Je dirais...
C'est une utilisation de ça comme matériau, en fait. On en est prisonnier de tous ces flux d'informations qu'on ne choisit pas forcément, qui tournent en boucle autour de nous. Et c'est une façon de se le réapproprier, de le prendre et d'en faire quelque chose, comme des armes. Transformer en armes, en fait.
Il y a quelque chose de J'avais appelé l'émission Autoproduction et ça avait effectivement deux sens, comme tu me l'avais fait remarquer en m'écrivant. C'était l'autoproduction de l'objet lui-même et puis l'autoproduction de soi. Et il y a quelque chose, une démarche, une recherche d'authenticité dans ce que vous faites qui participe de la naïveté, mais sans aucun jugement de valeur, comme une espèce de vouloir retrouver un premier jour du monde, une fraîcheur, quelque chose d'adamique, qui pour moi est assez difficile à appréhender, en ce sens que les avant-gardes avaient tout de suite un fond de cynisme et de violence très fort. Et ça rejoint à cette question des références, parce que il y a référence et référence. Il y a les références qui tétanisent ou les références qu'on utilise comme des arguments d'autorité, mais aussi les références qui sont acquises et qui sont simplement qui participent d'une certaine maturité, tu vois. Donc qui sont le... Et je, en réfléchissant aux avant-gardes possibles, je n'en voyais qu'une dans votre cas, c'est le futurisme italien. C'est-à-dire qu'eux, ils découvrent la machine. Donc, simplement, on a changé de type de vocabulaire, on a changé de technologie au sens propre. Et donc, les futuristes italiens étaient très élogieux avec les avions, par exemple, qui débutaient de leur temps. Enfin, il y avait les tout premiers avions avec tout ce qui concerne la vitesse, tout ce qui est caréné, tout ce qui est aérodynamique. Et donc, ils reproduisaient le mouvement. Et dans la poésie de Marinetti, tout ça, il y avait un jeu sur les mots. Mais ça faisait un petit peu un bruit, plutôt des instruments de percussion. Hein, plutôt un rythme de ce type-là, plutôt que...
Et les trucs de musique futuriste qui sont géniaux.
Voilà. Mais ce n'est pas les cordes, ce n'est pas un truc qu'on ne cherche pas. Ou le piano, enfin un certain type de piano. Et si on prend par exemple le dadaïsme, le côté contre était tout à fait fondamental. Hein. Ici, on est dans un contexte de boucherie, c'est la fin de l'Europe, c'est la guerre 14-18, c'est un massacre. Si on prend les constructivismes russes, c'est lié au communisme, enfin, puis les futuristes italiens vont devenir fascistes. Et il y a une espèce de fascination, ça rejoint mon idée de paralysie. Je vois aussi des zombies, moi. Alors ça me plaît beaucoup, cette image d'une poésie zombie. C'est-à-dire qu'on voit bien les zombies, il n'y a pas de contenu à l'intérieur. Tu vois, il y a une espèce... Donc c'est le jeu, là, se fait... Je crois que la question de référence se pose comme ça, c'est... Il y a des références qui sont assimilées, qui t'appartiennent, et puis il y a des références qui restent flottantes, comme ça, à l'extérieur. Et là, on est dans un monde où tout se vaut. Et je pense qu'effectivement, le challenge est arrivé à faire une expression poétique à l'intérieur de tout se vaut, sans le rejeter en bloc. C'est-à-dire en lui donnant un rythme, en lui donnant une autre structure, en travaillant dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin, c'est...
Tout se vaut, je dis pas ça. Ben, pour l'avant-garde,
c'est le monde qui te dit ça, tu
en
vois.
Tu me dis tellement de choses que je me demande sur quoi répondre. Pour l'avant-garde, en fait, je revendique pas le mot avant-garde. Mais c'est un peu délicat parce que j'aime la forme de l'avant-garde qui m'a profondément marqué. Et c'est évident qu'on voit le mutantisme. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mot n'est plus pertinent, tout simplement. Donc je dirais que c'est peut-être à l'endroit ou dans un endroit pas très loin de ce qu'on appelait avant l'avant-garde. Mais... Ça s'appelle pas avant-garde, c'est quelque chose sans nom.
C'est un petit peu le sens de ta démarche aussi, tu voudrais effacer tous les noms, toutes les choses et puis tout refonder. Tu es quand même dans une démarche de ressourcement,
oui, mais c'est
de refondation
venu,
du monde.
Ça, c'est vraiment venu d'un mouvement recherche de justesse par rapport à... C'est pas juste, allez hop, on va tout refaire. C'est la sensation qu'aujourd'hui, on est dans un changement d'épistémé, de civilisation, d'époque. Et que donc, de toute façon, tout a changé et il faut en prendre acte. Et il vaut mieux le faire le plus vite possible. Parce que le mutantisme vient pas mal du désespoir. Aussi. Enfin, vraiment de...
Si on prend ta technique de cut-up, là, donc de prendre des choses éparses et puis de les mettre ensemble de façon arbitraire, et si on prend... c'est Gilles Volman, mais ça, c'est un trait d'érudition qui a inventé le cut-up. Mais en même temps, Burroughs et Brian Geising l'inventaient aussi. Et si on prend Burroughs, par exemple, ce qui frappe quand on lit le Festin nu, c'est que c'est de la littérature de vieux. Il a beau être drogué, homosexuel et tout ça... C'est une imagerie surréaliste derrière. Ça fait, il y a beaucoup d'images et il y a quelque chose. C'est très chargé en culture. Et vous, je trouve que vous avez beaucoup de fraîcheur, que vous avez vraiment. Et c'est un challenge effectivement assez difficile. Mais je pense que vous êtes dans une problématique effectivement de remettre les compteurs à zéro. On fait ça aussi quand on réinitialise le nombre d'écoutes de quelque chose sur Internet. Bon, on va refaire une pause musicale et après, on va essayer d'affronter le noyau dur. On va te laisser la parole parce que ça passe très vite et tu vas pouvoir t'exprimer, Mathias, je te le promets. Une petite pause musicale, c'est Aligre FM, La vie est un roman.
Je n'aurai ce que faire, je n'aurai si t'avore, je la coule à t'il à toi. La spinage en la bouchon, si grette pote bello, si raquis pas que l'écho, je la coule à t'il à toi. Signora Pilassine, voulez-vous la teximite? Le zionta sous la cita. Toula, 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 wa. C'est mon tia si l'amour, le son tia s'ocrevore.
Je te repasse la parole, Mathias, et puis dis-nous ce que c'est le noyau dur, pour toi, ce qui est très important, qu'on ne doit manquer en aucun cas dans patch.1.2 et dans Syntex. À toi, Mathias, on va te laisser parler, vas-y.
Je voulais juste répondre à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la fraîcheur, à la réinitialisation. C'est que parmi les idées qu'il y a dans le mutantisme, ça, c'est aussi qu'on n'emploie plus d'entre dans le post ou le post-post, ou maintenant bientôt on va dans le post-post-post, et plutôt voir les choses d'un autre angle, à l'envers, d'un point de vue temporel, depuis le futur. C'est-à-dire, au lieu de se dire qu'on est après, c'est plutôt réfléchir à on est avant quoi. Et dire qu'on est dans la préhistoire, en fait. Donc ça a paru très fertile comme changement d'angle temporel. Parce qu'on est tellement dans notre petite échelle de temps qu'on ne réalise pas qu'on est surtout avant quelque chose plutôt que toujours avant, après ce qui vient de se passer. Enfin, c'est juste une idée qui est assez... La remise en question de tout commence aussi avec la remise en question de la temporalité, aussi de la façon dont on appelle les choses, le nom ou le lieu. Enfin, voilà.
Tu veux nous lire quelque chose ? Tu cherches quelque chose là ?
Je feuilletais en même temps que je parlais, voir si je trouvais la page. Mais vas-y, Patrice.
Non, je lis la première page du patch 1.2 mutantisme là. Centre de concept, de doctrine et d'expérimentation. Cette lecture est interdite et peut être interrompue à tout moment. Ce n'est pas une crise morale, politique, financière. Ce n'est rien de tout ça, c'est une crise évolutive. On est au même point où, à un certain moment de l'évolution, il a fallu passer d'une respiration branchiale à une respiration pulmonaire, ou bien on s'asphyxiait. Voilà, on trouve aussi ces idées-là dans le mutantisme. En fait, je ne parlerai pas des références, ça m'a été interdit tout à l'heure.
Mais si, c'est bon.
Mais pour qui, comme moi, ai lu de manière peut-être un peu, des fois un peu superficielle, mais quand même je m'y suis collé, qui ait lu Darwin, par exemple, c'est-à-dire Darwin lui-même, non pas ce qu'on a essayé de lui faire dire. Je trouve également dans le mutantisme, bon, là, ce que je viens de citer tout à l'heure, des références à ça aussi, c'est-à-dire cette crise évolutive. C'est vrai que le mutantisme paraît comme un projet très ambitieux, mais bon, tout à fait... Enfin, d'un point de vue de la lecture, d'un point de vue du texte, tout à fait tenable.
Peut-être, alors, oui. Peut-être tu veux nous lire une page de syntaxe, Richard. Tu veux nous lire une
peut-être
page de ton livre syntaxe. Mais il y aura pas beaucoup d'après, tu sais.
On fait vite fait pour présenter comment travaille Mathias en performance. Parce que Mathias, on l'a vu avec Yves vendredi dernier, moi j'ai été scotché, des performances j'en vois souvent, il y en a qui sont bons des fois plus ou moins vides. Là c'était quelque chose de très il m'a paru quelque chose d'un point de vue formel, de très abouti, un vrai travail sur le texte, une vraie gestuelle, c'est-à-dire d'un point de vue visuel, évidemment, la radio, c'est pas évident, mais d'un point de vue gestuelle, il y a une véritable chorégraphie de la langue qui s'installe à chaque fois qu'il y a un poème qui se lit. Et on a écouté ça pendant une heure, et moi j'ai trouvé ça tout à fait scotchant. On est vraiment dans de la performance orale, à partir d'un texte qui m'a fait penser aussi, bon, toujours les références, des formes de lettrisme ou quelque chose comme ça, remise au goût du jour. Est-ce que tu, Mathias, tu pourrais nous faire une petite performance là? Non?
J'ai pas prévu, enfin, je veux bien lire quelque chose.
Voilà,
lis quelque chose.
Lis quelque chose.
Ça serait autre chose.
Bon, d'accord.
Je vais lire donc un extrait de Saint-Texte. Il semble pertinent d'avoir totalement et complètement tort. Sans imperfection, le monde serait pauvre. Comment être inadapté en toutes circonstances? Ne suis ni droitier, ni gaucher, ni ambidextre. Un poisson avec un masque de plongée, un oiseau avec des ailes en plastique, oreilles tendues vers l'ailleurs. La mort développe notre indifférence. Nous avons les moyens de vous faire exister. Il devient ainsi le premier homme à ne pas traverser l'Atlantique. Il faut des 100 noms pour chercher de nouvelles routes, de nouveaux regards. Seuls, nous sommes 1000. À 2, nous sommes 3. À 3, nous sommes 1. Au centre du néant, il y a le milieu de nulle part. Zone internationale, stérilisée. Corps, piraté. Planète, planifiée. Rêve, pré-rêvé. L'humanité devient un seul être. Arbres en cage. Échecs permanents. Pensées mécanisées. Une souris née d'un œil arraché. Éclosion de la tête piégée. Une partie de mon intelligence s'emploie exclusivement à me contrer. Je freine depuis que je suis né. Il remonte le temps jusqu'à tuer son grand-père, rendant incohérente sa propre existence. Elle cherche son bouton d'autodestruction. J'ai mis du temps à comprendre que personne ne peut comprendre. Personne. Je suis une fenêtre, une caméra autonome. Tu crois regarder la mer et tu regardes un mur. Amouraï neurographe, enculé par un arc-en-ciel. Tu pars en croisière sur un missile. Sommes tous à une seconde d'être morts. Je continue ou...
Tu peux, ouais, comme tu sens.
Ton sexe est une antenne radio. Ton sexe crée des enfants qui errent. Ton sexe crée des enfants qui crient. Ton sexe crée des enfants qui créent. Ton sexe crée des enfants qui jouent. Ton sexe crée des enfants qui se demandent ce qu'ils foutent là. Ton sexe crée des enfants qui enfantent. Ton sexe crée des enfants qui s'amusent. Ton sexe est une radio qui erre. Ton sexe crée des enfants sur terre. Ton sexe est un fou. Ton sexe est sans enfant fixe. Ton sexe est un fou 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 sans enfant fixe. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Pornostroïka.xxx. Rongé par le désir sexuel comme par la lèpre. Soutien-gorge gonflé d'informations. Compétition de sportifs génétiquement modifiés. Le muscle le plus puissant du corps et la langue. Commercialisation des premiers robots humanoïdes de grande série. Catalogue de harem automatisé. God aphrodisiaque fabriqué avec les os et les glandes de condamnés à mort chinois exécutés, mais dont le cœur bat encore. Technologies sexuelles inconnues. Des ovnis dans le cul. Prostitution vampire, première lignée de cellules pluripotentes, dérivées de cellules souches mutantistes. Les machines deviennent sauvages, avec une intelligence bien plus évoluée que la nôtre. 100 000 ans de porno dans ta carte mémoire. Terre 374, nouveau monde international ouvert, risque de choc. Il la pénètre par les blessures qu'il lui occasionne. La sonde Voyager découvre un livre de cul non humain dans la ceinture d'un stéroïde. Massage sur tout le corps avec une grande bouche constituée de très nombreuses couleurs que l'œil ne peut toutes distinguer. Nervosité tarée, c'est la petite tête qui commande la grande. Chorégraphie psychiatrique, qui est le femme? Ad libido, de quel sexe est cette eau? Diffusion d'ocytocine dans les grands magasins pour augmenter la consommation. J'arrête là, j'ai envie de revenir un tout petit peu vers le mutantisme. Enfin, on y était, mais d'une autre manière. Là où nous sommes, personne ne peut nous voir. Personne ne peut nous prédire, nous pressentir. Personne ne peut se souvenir de nous. Là où nous sommes seuls, définitivement seuls, nuls et non avenus. Seules des particules dans les pierres, dans l'air, dans la poussière, se souviendront de nous. Seules des particules dans les pierres, dans l'air, dans la poussière, savent que nous arrivons. La préhistoire, c'est maintenant. Nous ne sommes nulle part, au tout début, aux prémices, à un moment insignifiant, avant le prologue, avant même que quoi que ce soit ait commencé. Le mutantisme n'est pas postmoderne ou transhumain, mais préhistorique. Le passé, c'est maintenant. L'an zéro n'est pas encore advenu. L'an zéro est à venir.
Merci Mathias pour cette lecture.
Totalement improvisé la lecture, hein.
Ouais, c'est bien, c'est bien.
C'est vrai que ça vous met une ambiance dans le studio là de films de science-fiction. On a l'impression qu'on est dans la capsule là. Donc le mutantisme dans les fêtes, ce sont des livres qu'on trouve sur le site mutantisme. On tape ça sur internet.
Sur le site Caméras Animales.
Caméras Animales.
On mettra les liens sur la page de podcast.
Hein, voilà. Alors le patch 1. Il y a les patchs précédents. Le patch 1.2, c'est 320 pages, 30 auteurs, et le livre est à 20 €, ce qui fait 66 centimes d'euros par auteur. Hein. Pourquoi s'en priver?
Ce qui est, comme je te faisais remarquer, un chiffre satanique quand même. Et c'est pas du tout fait exprès.
Donc voilà, oui, sur le site, on mettra ça sur la page de Alig FM.
Et donc toi, t'es basé à Marseille?
Oui, ça fait 3 ans et demi que j'habite à Marseille, même si je suis parisien d'origine.
Et vous avez été, et j'ai vu sur Internet, vous aviez un espèce de vendredi de la poésie, là où vous faites des réunions, vous manifestez publiquement là-bas.
Vous, c'est moi ?
Oui, enfin vous et un certain nombre d'autres gens, je pense pas que tu puisses...
Marseille, c'est une ville qui bouillonne et entre autres, il y a un lieu que j'aime beaucoup là-bas qui s'appelle l'Asile 404, qui est devenu une sorte de QG. Et depuis que j'y suis, j'ai dû faire au moins 30 ou 35 interventions là-bas. Ça regroupe toutes sortes de personnes, dont certaines sont devenues très mutantistes et du coup, participer au patch. Donc oui, je fais souvent des interventions là-bas, des perfs, des lectures ou des choses bizarres. Tout ça.
Tu travailles beaucoup avec la musique, hein, avec la musique électroacoustique.
Quand tu parlais des performances, tu parlais du geste, etc. Mais il faut comprendre, je viens vraiment du rock au sens large, hein, que ce soit la musique industrielle, le punk, tout ça. Et donc, je pense que ça, dans ma façon de performer, D'ailleurs, je me suis parfois dit que le rock était le mouvement poétique le plus important du XXe siècle.
Ça peut se défendre, mais bien sûr.
Dans le sens où ça a vraiment changé le rapport à la parole, au corps, au son. Enfin, moi, c'est peut-être ça qui m'a le plus profondément marqué dans ma vie. Hein. Les concerts de rock, l'écoute de disques. Bon, bien sûr, je suis un grand lecteur, mais ça, c'est... Et j'étais chanteur, je suis aussi chanteur parfois, où je fais des performances avec des musiciens. Et parfois, dans mes performances, on doit sentir que j'ai envie de crier, de me rouler par terre, ou que je reprends des phrasés, des rythmiques qui viennent du hardcore, du rock. Moi, la poésie sonore, elle m'est arrivée par Bernard Hatzik. Hein. Mm-hmm. Elle m'est arrivée par le punk hardcore, où, avec les cris, les borborythmes, tout. Et instinctivement, j'ai trouvé ça très créatif. Et
puis tu écoutais Noir Désir aussi quand tu étais jeune. Donc,
oui.
Mais c'est du texte, hein. Il y a beaucoup de mots dans certaines chansons de Noir Désir.
Le premier concert de Noir Désir que j'ai vu, je ne connaissais pas du tout. Mon père nous a emmené voir Bachung.
C'était bien.
Et en fait, pendant 2 heures, j'avais 14 ans, il y avait ce groupe Noir Désir, 89 je crois. Je ne comprenais rien au son, c'était tellement saturé. On n'imagine pas aujourd'hui parce que c'est devenu assez propre.
Très vrai, ça n'existe plus. Ouais.
Et pendant 2 heures, j'ai juste été plongé dans le son avec des gens qui se fouettaient avec les micros, qui sautaient en l'air. Effectivement, c'était une expérience. En tout cas, après ce concert, je me souviens encore prendre la voiture à travers la nuit, à travers la brume. Enfin, on était complètement sonné par le son. Mais oui, c'est un groupe important. Et pour moi, plus presque dans l'attitude et la violence ou scénique que pas forcément les paroles exactement Quand j'étais adolescent, je trouvais ça bien les paroles. Maintenant,
C'est marrant parce que on va conclure. Oui, c'est là on conclut, mais on parlera de la parodie une autre fois parce que je pense à Bergman, le parolier de Bachung, et qui m'avait réconcilié avec les chansons écrites en français. Et c'est quand même très parodique. C'est un autre mot pour dire vieux. Là, comme je parlais de Burroughs, c'est un côté parodique. Vous pratiquez pas d'ironie ni de cynisme. Enfin, dans ce que j'ai vu, dans ce que vous faites, voilà. Merci d'être venu, Mathias Richard, page 2. Merci, Gabriel.